Oui, il y a un temps pour tout. J'avais aussi choisi le titre Il y a trop. On choisit celui qu'on préfère. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ça. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Il y a trop en ce moment. Et puis, on ne précise même pas de quoi on parle. Trop de quoi? Trop de travail, trop d'activité, trop de stress, trop de pression. Peut-être que ce n'est pas un hasard si ce n'est pas précisé, parce que c'est juste ressenti comme un tout. Il y a trop. Comme si le temps était compressé, hein, et que c'était les émotions qui crient ça. Alors, ma question est de savoir, est-ce qu'il faut accepter ça comme une fatalité? Ou bien est-ce que Dieu, qui est notre créateur, qui est le créateur du temps, de la temporalité, eh bien, il a quelque chose à nous dire par rapport à ça. Et personnellement, eh ben, je le crois. Il y a actuellement beaucoup de pression par rapport au temps, puis on invente toutes sortes de gadgets pour gagner du temps, et on a quand même le sentiment de toujours en manquer. Et puis parfois, il y a même des imprévus qui nous font perdre du temps. Alors là, c'est très frustrant. Je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, je déteste ça, perdre mon temps. En lisant un livre de Frédéric de Conin qui s'appelle « Ralenti, fais du temps ton ami », j'ai trouvé que c'était intéressant. Il disait que cette obsession du temps, c'est quelque chose de relativement récent dans l'histoire de l'humanité. Ça date de la révolution industrielle. On me dirait que ça date un petit peu quand même, mais à partir du moment où on commence à payer l'être humain en heures de travail et où on va comparer son travail au travail de la machine, son rendement. Or, on n'est pas des machines. Hein. Et c'est une manière de déshumaniser l'être humain que de placer comme idéal une machine. Alors, à cette époque-là, il y a Benjamin Franklin, que certains connaissent comme l'inventeur du paratonnerre. Il a aussi écrit des textes par rapport à ça que j'ai trouvé intéressants. Et il montre dans ses écrits une espèce d'angoisse du temps perdu. Il a écrit notamment la fameuse phrase que tout le monde connaît, « Souviens-toi que le temps, c'est de l'argent. » C'est lui. Et il dit aussi des phrases qui font un peu frissonner. Donc il dit « Si vous aimez la vie, ne gaspillez pas le temps, car c'est l'étoffe dont la vie est faite. Combien de temps ne donnons-nous pas au sommeil au-delà du nécessaire? Nous oublions que le renard qui dort ne prend pas des poules et que nous aurons assez de temps à dormir quand nous serons dans le cercueil. Si le temps est le plus précieux des biens, la perte du temps doit être aussi la plus grande des prodigalités, puisque le temps perdu ne se retrouve jamais. » Ça fait un peu peur, hein? On a envie de lui dire « respire ». Mais disons que ces citations, elles montrent ce qui est au cœur de notre économie. C'est notre économie moderne, hein, cette espèce de chasse au temps mort, une recherche de l'économie et de l'argent comme étalon de tout. Mais Dieu nous a créés comme êtres humains et pas comme des machines. Et je crois qu'on n'a pas à être esclave du temps, esclave de la rentabilité, mais qu'on a à être libre par rapport à notre vie, libre de vivre en relation avec Dieu et avec les autres. Si on regarde les 10 commandements, c'est quand même clair au niveau des priorités de Dieu qu'il place la relation avec Dieu comme priorité et la relation avec les autres comme seconde priorité. Et on a parfois l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui oublient ça et qui subissent leur vie comme un esclavage du temps. Quand on dit « j'ai pas le temps », en fait, c'est plus moi qui décide, mais je subis l'esclavage et puis voilà. C'est le temps qui me dit ce que je peux faire ou pas faire et ce à quoi je dois renoncer. J'avais envie de vous lire un texte de l'Ecclésiaste, ou plutôt de demander à quelqu'un de l'Assemblée de le lire, comme ça il va être projeté, puis ça sera la même version. Si quelqu'un veut bien le lire à haute et intelligible voix, Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. L'Ecclésiaste, je vous l'ai déjà choisi, il me semble, dernièrement, mais je crois qu'on a vraiment besoin actuellement de sagesse. Et c'est pour ça qu'il est là, l'Ecclésiaste. Merci Thierry.
Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le soleil. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Un temps pour tuer et un temps pour soigner les blessures. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'en abstenir. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour conserver et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour recoudre. Un temps pour garder le silence et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix.
Merci. Il y a un temps pour tout et chaque chose a son heure sous les cieux. L'Ecclésiaste, il nous dit qu'on a du temps et qu'on en a beaucoup. Et on a même le temps de faire une chose et son contraire. Dans toutes sortes de paradoxes, vous avez vu tous ces paradoxes. Il n'y a pas de jugement moral dans ce texte. Hein. On ne dit pas que c'est bien, c'est pas bien. C'est juste comme ça, c'est la vie. Hein. La vie n'est pas linéaire, elle n'est pas planifiable dans tous les détails. Il y a des choses qui nous arrivent et on doit faire avec. Et il y a là un besoin de lâcher prise, accepter en fait ce qu'on ne peut pas changer, ce qui n'est pas de notre sort. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, le réel soulagement qu'il y a à lâcher prise sur les choses où de toute façon on ne peut rien changer. Des fois ça m'arrive, c'est comme si l'esprit me soufflait, mais laisse tomber là, tu ne peux rien faire, donc lâche. Et si j'accepte, c'est comme si tout d'un coup, eh ben, il y avait une tension qui s'enlevait. Le lâcher prise... Oui, j'aimerais vous faire encore une autre citation qui m'a fait rire. C'est de Kevin DeYoung, un Américain. Il dit « Aller se coucher est notre façon de dire « Dieu, je te fais confiance. Tu vas t'en sortir sans moi. » Toujours dans une citation, j'aimerais vous citer Alphonse Maillot, comme c'est assez long, ça va être projeté. Sur cette thématique, sur ce texte de l'Ecclésiaste, il a écrit des choses très intéressantes, donc plutôt que de mal les retransmettre, je le lis carrément. Il dit « Malgré la brièveté et la fragilité de notre vie, nous avons beaucoup de temps et beaucoup d'œuvres qui nous sont possibles. C'est sans doute un des messages de Coëlette, c'est-à-dire l'Ecclésiaste, qui à la fois nous est le plus difficile et le plus nécessaire à écouter. Car nous sommes devenus des hommes qui n'ont plus de temps, des hommes possédés par le temps au lieu de le détenir, des hommes qui le subissent au lieu de le juguler. Coëlette nous exhorte à retrouver, à racheter le temps que nous nous sommes laissés voler. Il nous délivre de ce mensonge dans lequel nous nous sommes enfermés qui consiste à croire que nous n'avons le temps de rien. Car en fait, nous avons beaucoup de temps. Et même le temps de tout faire, à condition de savoir saisir et remplir celui dans lequel nous sommes. ici et maintenant, à la condition de savoir saisir le temps présent, de ne pas le transformer en temps perdu, en pensant sans cesse aux temps qui vont venir. Dans la deuxième partie du verset 1 qu'on a lu tout à l'heure, l'Ecclésiaste dit « Chaque chose a son heure sous les cieux ». Et une chose qui nous empêche de vivre pleinement le moment présent, bon, Alphonse Maillot parle de vivre dans le futur, mais c'est de vivre à contre-temps, soit dans le passé, à penser à ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait dû dire, ce qu'on n'a pas dit. Enfin, vous voyez, hein, ressasser le passé ou le regretter. Soit à vivre dans le futur en se faisant du souci pour ce qui va se passer, en essayant de planifier toutes sortes de choses ou en rêvant d'une vie illusoire. Le problème, ce n'est pas de planifier. Le problème, c'est de, c'est de rater le temps présent. C'est de ne pas vivre ici et maintenant ce qu'on a à vivre parce qu'on est ailleurs, soit dans le passé, soit dans le futur. J'aimerais illustrer par un exemple le fait de vivre un peu à contre-temps. Imaginons que je pars au travail et que je dois prendre le bus pour aller au travail. Et que j'apprends, imprévu, que le bus aura au moins une heure de retard. Donc, comment est-ce que je réagis à ce qui m'arrive, que je n'ai pas choisi, hein, que je ne peux pas changer? Admettons que je n'ai pas d'autres moyens de transport. Hein, comment je réagis? Alors, je peux m'énerver sur le fait que le bus a du retard, essayer de comprendre ce qui s'est passé, râler sur les transports publics, voilà. Je finis frustrée, stressée, énervée. J'ai passé une heure à ressasser un événement passé. Je peux aussi paniquer, me dire « aïe, 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 toute ma journée, mon planning, tout va être perturbé, j'étais déjà un peu limite, comment je vais faire pour gérer tout ça ?» Là aussi, je finis stressée, énervée, sur les nerfs. Ou je peux accepter cet événement, me dire « Tiens, chouette, j'ai une heure de libre que je n'avais pas prévue. Donc, je vais profiter, je vais lire, je vais écouter de la musique, je sais pas, je vais téléphoner, je vais regarder le paysage, je peux prier, je peux me relaxer, je peux faire plein de choses. » Et je vis la suite de ma journée avec un plein d'énergie. Et le fait de vivre le présent et de l'habiter pleinement, moi je pense que c'est fondamental et qu'on a une responsabilité dans la façon dont on gère ce qui nous arrive. Une responsabilité dans le fait de voir le verre à moitié plein au lieu de à moitié vide. Vous allez me dire, oui, mais il y a des gens, ils sont optimistes de nature, donc ils n'ont pas d'effort à faire. D'office, ils vont voir cette heure de libre comme une opportunité et s'en réjouir. C'est vrai, il y a des gens qui sont optimistes de nature et puis tant mieux pour eux, c'est chouette. Mais pour ceux où ce n'est pas très naturel, je crois que c'est vraiment quelque chose que l'esprit veut faire dans nos vies. Que ça fait partie de son œuvre de sanctification, de nous faire voir le verre à moitié plein et le fait qu'on soit reconnaissant pour ce qui se passe et le fait de vivre les choses pleinement, je pense que c'est ce que Dieu veut pour nous. Lors d'une formation que j'ai suivie pour mon travail, donc tout à fait un autre domaine, j'ai découvert une chose que je veux partager avec vous parce que je pense que c'est utile pour tout un chacun et puis ça va bien avec cette thématique. C'est une image qui est utilisée par Jean-Philippe Lachaud qui est un neuroscientifique qui s'occupe particulièrement du cerveau, du fonctionnement du cerveau. Et il décrit les causes de l'état de stress du cerveau et donne des pistes pour la gestion de ce stress. Il explique qu'en fait, notre cerveau, il n'aime pas penser à plusieurs choses en même temps et que ça le met en état de surchauffe avec un sentiment du coup de stress. Il y a plusieurs choses. Et puis, que ce sentiment de surchauffe, ça pourrait être ce qu'on dit quand on dit « il y a trop ». Impossible d'être dans le présent parce que voilà, ça bouillonne. Par exemple, vous essayez de lire un texte et puis en même temps, vous dites je dois faire les courses, vous faites la liste des courses, vous dites je dois sortir le chien aussi après. Et au bout du compte, vous savez plus ce que vous avez lu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça déconcentre, on n'est plus à son affaire et concrètement, on ne peut pas dire qu'il y a trop, c'est gérable de faire ces trois choses. Sauf que le cerveau, il ne veut pas les faire, enfin, il ne peut pas les faire en même temps. Il l'interprète de cette façon. Donc, le conseil de Jean-Philippe Lachaud, c'est de séquencer son temps. Et il prend l'image d'un pêcheur de perles. Vous savez, peut-être que les pêcheurs de perles, ils pêchent en apnée. Donc, sur le bateau... Ils réfléchissent à ce qu'ils vont aller faire. Ils prévoient, je vais pêcher, je vais aller avoir à tel endroit. Ensuite, ils plongent, ils font ce qu'ils ont prévu. Ils ressortent, ils re-respirent. Et là, ils réfléchissent à ce qu'ils vont faire après. Donc, vraiment, ils ne peuvent pas, sous l'eau, tout d'un coup se dire, je vais faire autre chose. Parce qu'ils vont manquer d'oxygène. Et il semblerait que notre cerveau, il aime fonctionner la même chose. Je décide d'une chose, je fais. De manière très dans le présent, finalement. Il aime être dans le présent et pas penser à d'autres choses d'après. Ça me fait penser à l'Ecclésiaste qui dit « chaque chose en son temps ». Et puis... Oui, je pense que cette manière d'organiser son temps, ça évite le stress et le fait de tout superposer. J'aime bien ça parce que ça respecte à la fois peut-être une certaine efficacité, mais aussi notre fonctionnement d'humain. Notre cerveau, il fonctionne comme ça, respectons-le. Et ça rejoint l'Ecclésiaste qui dit... Vit chaque chose en son temps. Le fait de vivre chaque chose en son temps, ça permet aussi de profiter de chaque chose en son temps. Et j'aimerais terminer avec ça, avec quelques versets aussi dans l'Ecclésiaste que je n'ai pas mis là, mais que je vais vous lire. Il dit au chapitre 3, versets 11 à 13, Dieu a fait toutes choses belles à son heure, et même il a mis dans le cœur des hommes le secret du temps, sans lequel l'homme n'aurait pu découvrir le fait par Dieu de son début à sa fin. Alors j'ai su qu'il n'y avait de bon pour personne sinon d'être joyeux et de faire son bonheur pendant sa vie. Car cela aussi, un homme qui mange et boit et s'émerveille du bonheur au milieu de toutes ses peines, est un don de Dieu. Je vais m'arrêter là. Je vous invite à un petit moment de silence pour faire le point, accueillir ce qu'on a à accueillir.